his first hit of the year. He drives one deep left field. That goes Upton back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. The impossible has happened.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast The Strikeout. Ça y est, hein, on est en plein milieu de la off-season, donc plus trop de matchs à se mettre sous la dent, mais heureusement, hein, la MLB ne dort jamais, il y a toujours de l'actualité avec la Ligue américaine. Donc ce mois de novembre, on a eu le droit à toute la flopée d'awards et donc des récompenses pour les meilleurs joueurs de la saison. On fera un petit récap dans cette émission. C'est également la pleine période de la saison des transferts, donc l'intersaison où les spéculations vont bon train pour savoir où les agents libres vont aller signer des maxi-contrats et où est-ce que les GM peuvent faire des petits ajouts pour aller viser leurs objectifs respectifs. Donc pour parler de tout ça, j'accueille l'équipe d'aujourd'hui, à commencer évidemment par Marion. Bonjour Marion, comment ça va?
Salut Martin, salut à tous. Écoute, je pense que ça va un petit peu mieux que Gerrit Cole qui n'a toujours pas de Cy Young Award.
Et ben ça finira sûrement par arriver vu la durée du contrat qu'il a avec les Yankees. Ça finira sûrement par arriver. J'accueille également Bastien. Salut Bastien, même question, comment ça va?
Salut Martin, bah écoute, très bien, hein. On n'attend pas grand-chose de l'off-season ici, hein, du côté des Mets. Donc enfin on n'attend pas grand-chose et on attend énormément en même temps. Donc voilà, on aborde l'hiver tranquillement, on attend de voir ce qui va se passer.
Bah écoute, ça, du côté des deux équipes de New York, en tout cas, il risque d'y avoir pas mal de tractations et de mouvements. Donc, on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Moi, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Play ball. Avant de commencer sur le petit roundtable sur les awards, on va faire un petit tour des news qui sont passées durant ces dernières semaines, à commencer par la plus récente, j'ai envie de dire. Ça y est, les Indians, c'est terminé. Place maintenant aux Cleveland Guardians, nouveau nom donc pour des raisons ethniques, j'ai envie de dire, et sociales. Qu'est-ce qu'on en pense un peu de ce changement de nom? On en avait déjà longuement parlé quand ça avait été annoncé en début de saison, mais maintenant, ça y est, c'est officiel. La boutique a enfin ouvert le merchandising et ça a commencé à pleuvoir les nouvelles casquettes des Guardians.
Bah, ouais, ça va être surtout une question d'habitude. On aura un petit peu de mal à s'habituer à ce nom-là. C'est voilà, une page de la MLB qui tourne. On sait que les Indians, c'était une des plus vieilles, enfin en tout cas un des noms les plus vieux hein, qu'on retrouvait dans l'histoire. Donc j'ai envie de dire nouveau nom, mais est-ce que ça sera nouvelle ambition, nouvelle politique? J'en suis pas sûr. Je pense que Bastien, tu es d'accord avec ça?
Absolument. Et puis je pense qu'en fait la transition a été vraiment très bien amenée parce que bon, ça s'est passé à un moment où les Guardians maintenant. Sont complètement au fond du trou, de toute façon personne ne les remarque, donc bon, à part quelques grincheux, ils vont revenir après la reconstruction dans 3-4 ans et puis ce sera les Guardians, hein, donc ça se passe plutôt bien, hein, sans être trop cynique. J'ai trouvé que c'était bien accompagné, bien amené. Bon, ils ont résolu le problème avec l'équipe locale de roller derby pour récupérer le nom. Maintenant ils vont pouvoir monter en puissance en tant que Guardians, et dans 3-4 ans quand ils vont commencer à revenir vers la post-season, on aura complètement oublié, enfin on n'aura pas oublié l'histoire des Indians, mais on aura complètement oublié l'histoire du changement de nom.
Oui, et puis on rappelle hein, que la typographie, c'est exactement la même, Guardians-Indians, ça garde à peu près la même terminaison, donc ça ressemble énormément, donc du beau travail hein, du côté de la franchise sur ce rebranding. Et puis pour ceux qui veulent se remémorer les bons souvenirs des Indians, je vous rappelle que en toute franchise, sur la franchise de Cleveland, est disponible sur Spotify. N'hésitez pas à aller voir où on raconte avec Gaëtan la longue histoire de cette équipe de Cleveland. Autre news, mon cher Bastien, ça te concerne, c'est les Mets ont enfin trouvé leur general manager. Il s'agit de Billy Epler, l'ancien des Angels. Donc on a longtemps parlé de David Stearns, donc le general manager des Brewers, qui n'a pas été libéré pour des entretiens par sa franchise, mais qui est en fin de contrat l'année prochaine. Donc on s'attendait à ce que les Mets attendent un an avant d'aller à l'assaut de Stearns. Au final, ils signent Epler. Est-ce que c'est de la consolation ou c'est vraiment... on a l'impression que c'est quand même du deuxième choix. Hein.
Ouais, alors c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'enfin, à la base, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient donner à David Stearns le poste de président des opérations baseball pour que lui ramène un general manager. Bon, ils ont essayé Stern, ils ont essayé Epstein, ils ont essayé Billy Bean, ils ont essayé à peu près tout le monde. Hein. Je pense qu'à un moment, il a demandé à Obama si Obama voulait être le président. Du coup, ça, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un président des opérations baseball. Donc, ils ont dit, bon, en fait, c'est Sandy Alderson qui va garder le job pour l'instant, parce que bon, il est là, ça fait longtemps, il fait partie des meubles. On va chercher un GM à la place. Encore une fois, ils ont essayé à droite, à gauche, ils ont essayé des exécutifs d'à peu près toutes les franchises de MLB. Hein. Ils ont essayé Raquel Ferreira de Boston, notamment. C'était une de celles qui était desquelles ils sont vraiment approchés, pour finalement, après encore 3 semaines de plus, aller chercher un GM qui était libre, qui sortait d'une expérience pas géniale chez les Angels. Hein, donc,
difficile de réussir avec les Angels, mais un autre débat. Et au moins, il va rester dans la même politique de franchise difficile.
C'est ça, il part d'un environnement de millionnaire pervers narcissique à un autre. Il a juste changé de côte et d'océan, donc bonne chance à lui. On peut penser aussi qu'il est là pour un an ou deux, parce que le contrat de David Stearns expire ou l'an prochain ou l'année d'après, parce qu'on ne sait pas trop s'il y a une club option ou pas. Mais il semblerait que le but du front office des Mets soit de repartir pour essayer de le recruter l'automne prochain, donc en 2022. Donc on ne sait pas trop si Epler il est vraiment là pour combler le trou pendant un an, s'il y a une chance qu'il reste 2-3 ans, le temps de construire quelque chose. Donc voilà, c'est du rafistolage, c'est le DIY à la Mets. On lui a dit, t'as autant de pognon que tu veux, mec, tu fais ce que tu veux, mais dans un an, t'es pas là, quoi, en gros.
Bah écoute, il y a pire hein, comme travail pour être du côté des Rockies. On ne lui souhaite pas. Donc voilà un peu pour les petites news.
Ça, c'était gratuit, hein.
Exactement, et j'adore faire ça. Mais on embrasse évidemment Rockies France qui passe des moments un peu compliqués ces dernières saisons. Voilà, comme je disais, voilà pour les petites news de ces dernières semaines. On va passer à la grosse actualité qui a rythmé un peu nos nuits ces dernières semaines du mois de novembre. C'est la saison des awards, où donc la MLB a révélé les vainqueurs de ces différents trophées. Donc, on rappelle, il y a les Gold Gloves pour récompenser les meilleurs défenseurs à leur poste. Il y a également le manager de l'année, le rookie de l'année, le lanceur de l'année et évidemment le MVP. Donc, Marion, on va commencer avec toi. Par quel award tu voudrais commencer par décortiquer ? On commence par manager, tiens.
Manager, Bob. Pas vraiment, alors j'allais dire pas vraiment de surprise si on tient compte des résultats de cette saison. Par contre, énorme surprise, évidemment, personne, enfin nous, on n'avait absolument pas parié sur lui et personne, j'imagine, n'avait, enfin personne, très peu de monde avait parié sur notre bon Gabe Kepler, manager de l'année en National League. C'est quand même assez incroyable, hein. On ne va pas revenir, on en a beaucoup parlé tout au long de la saison, mais ce qu'il a réussi à faire cette année avec les Giants, donc je pense que si on tient compte de nos paris du début de saison, c'est la plus grosse surprise pour moi de ces awards, de voir le manager des Giants tout en haut. Pourquoi pas une deuxième saison consécutive. Je pense qu'il y avait peut-être un peu plus de débat en ce qui concerne l'American League, mais bon, voilà, c'est pas du tout un scandale, loin de là. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment Gabe Kepler dont on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup raillé, ce qui s'était passé précédemment et tout. Donc, c'est assez incroyable de le voir là.
Oui, après, c'est une surprise qu'il ait fait une saison comme ça, mais ce n'est pas une surprise qu'il récupère le trophée après la saison que les Giants viennent de faire avec, on le rappelle, 107 victoires et le trophée de la National League West en poche, au nez et à la barbe de l'argent infini des Dodgers. Bastien, pareil, du côté des managers, tu es d'accord avec Marion concernant l'American League. Peut-être que Scott Servais ou Dusty Baker, donc les autres finalistes, auraient peut-être mérité tout autant, du moins.
Ouais, bon, là, ils ont fait simple. Hein. Ils ont donné le trophée aux deux managers qui ont le plus de victoires dans chacune des divisions. Moi, j'aurais bien aimé voir Scott Servais le prendre, parce que ce qu'il a fait avec les Mariners, pour passer d'une... ouais, peut-être que d'ici un ou deux ans, ça va le faire... à une équipe qui a foulé les 90 victoires, qui a dépassé les 90 victoires, d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises, et qui a failli se qualifier pour la post-season. C'est quand même, il a quand même fait un boulot absolument génial cette saison pour en arriver là, quoi, avec une équipe qui reste encore relativement modeste au niveau de son effectif. Donc peut-être que j'aurais bien aimé le voir lui. Après, je pense qu'on va commencer à voir les Mariners. Enfin, on peut espérer pour eux qu'enfin on les revoit en post-season dans les années qui viennent. Hein. Ça commence à faire, ça fait 20 ans. Donc, je pense qu'on aura le temps de reparler de Servais. Pour le reste, oui, pas de scandale, comme vous dites. Hein. Cash et évidemment Kapler et Zaidi à San Francisco, Zaidi qui est l'exécutif de l'année, qui ont fait un boulot absolument énorme sur ce qui sera probablement un one-off, mais un one-off de classe quand même.
Bah, c'est sûr qu'il y a pire comme adieu pour Buster Posey, qui, on le rappelle, a décidé de prendre sa retraite du côté des Giants, le légendaire receveur de San Francisco, et sans doute, peut-être, même Hall of Famer. Ça sera un des grands débats quand son nom arrivera aux portes du prestigieux Hall. Au niveau des autres awards, on a donc le rookie de l'année. C'est peut-être pour moi, en tout cas, ceux qu'on fait le plus parler ou ceux qui sont le moins évidents. En tout cas, on rappelle donc les gagnants. Donc, pour l'American League, c'est Randy Arozarena, encore une fois des Rays. Donc, lui, c'est un peu particulier parce que il avait ébloui la scène de la MLB lors de la précédente post-season. Il était rookie, mais en post-season, donc son statut n'était pas encore activé, j'ai envie de dire, pour la saison régulière. C'est pour ça qu'il a donc été éligible pour cette année. Et du côté de la National League, c'est celui des Reds, c'est donc Jonathan India. Pareil, je me tourne vers Marion une nouvelle fois. C'est vrai que du côté des rookies, notamment, il y a eu pas mal, c'était en tout cas celui qui était le plus disputé.
Oui, parce que c'était le plus disputé parce qu'il n'y a pas vraiment eu cette année de joueurs qui s'est détaché en fait au long de la saison. Même nous, on avait un petit peu de mal à déterminer un peu notre favori. On avait tous des favoris un peu différents, alors que par exemple pour d'autres trophées, on était quasi unanimes. Donc c'était celui qui était le plus disputé. Il n'y a pas non plus de scandale là-dedans. Alors Arozarena, tu l'as dit. Voilà, ce qui est un peu plus surprenant, c'est de le voir toute l'année, alors que l'année précédente, on l'avait déjà vu briller. Wander Franco va devoir attendre, il n'a pas joué assez de matchs, alors que ça aurait pu ou dû être lui, mais il n'avait pas assez de matchs sous les crampons. Et du côté de la National League, c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal, on parlait beaucoup de Carlson, hein, des Cardinals, finalement. India, en fait, je trouve que c'est récompenser India, en fait, c'est récompenser les performances individuelles des Reds, parce qu'il y a beaucoup de joueurs en fait individuellement qui ont été très bons dans cette équipe. Castellanos, évidemment, India, on a eu comment il s'appelle son
Winker.
Voilà, Winker, Jesse Winker. Et finalement, il y a eu beaucoup d'individualité et ça n'a pas marché collectivement, donc c'est un peu ça fait un petit peu sourire pour cette équipe des Reds. Donc voilà. Disputé, mais pas de scandale non plus. Je vois
pas scandaleux, mais on va dire que c'était ceux où il y avait le moins de favoris clairs.
Voilà, l'unanimité derrière les.
J'ai envie de dire, c'est pareil pour l'American League. Bastien, derrière Arozarena, Luis Garcia ou Adolis Garcia des Rangers auraient tout aussi mérité, mais sa récompense à Arozarena, je pense, pour sa post-saison précédente et pour sa saison plutôt correcte du côté des Rays. Et je pense personnellement que si Franco avait eu un mois de plus de compétition, il serait reparti avec le trophée.
Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'allais dire au niveau de Van der Franco. C'est lui qui a été le plus impressionnant de tous les rookies American League ou National League. Mais il n'a pas joué suffisamment longtemps puisqu'il est monté en août, je crois, en Major League. Il n'a pas eu le temps de mettre suffisamment de chiffres pour pouvoir vraiment gagner la récompense. Et ça a évidemment joué sur les votants. Après, dans les deux cas, je pense qu'on ne va pas dire que c'est un choix par défaut. Bon, en National League, quand même, ça ressemble beaucoup à un choix par défaut. Hein. Parce qu'il n'y avait personne qui soit vraiment exceptionnel. Trevor Rogers avait très, très bien débuté la saison, mais après, ça s'est un peu rentré dans le rang. Carlson, ouais, bon, il avait beaucoup de hype. Après, tu vois les gens qui ont des votes, c'est Patrick Wisdom, Ian Anderson, Tyler Stephenson, Frank Schwindel, David Bednav, Vladimir Gutierrez. Mais t'as la moitié des mecs, c'est limite si on a entendu parler cette saison, quoi. Donc, c'est vrai que la classe de rookie était peut-être un petit peu faiblarde. Et India, il a fait une bonne saison, hein. une bonne saison de All-Star. Mais All-Star, Oui, je crois qu'il est All-Star, mais enfin All-Star potentiel, quoi. Voilà, c'est pour moi, ça ressemble quand même à un choix par défaut pour Arroz Arena, parce que c'est un peu pour récompenser sa post-season, comme tu le disais, un peu pour récompenser les Rays qui méritent quelques petits plaisirs, quelques petites récompenses pour le boulot qu'ils ont fait depuis quelques années. Mais c'est voilà, je ne suis pas complètement convaincu par la. Il y a des années, en fait, c'est un peu comme le Hall of Fame. Il y a des années où il ne faudrait peut-être juste pas donner le trophée pour moi.
Ben, ils ont fini par en donner, mais en tout cas, bravo aux deux vainqueurs donc, de ces rookies de l'année. On passe à peut-être les deux derniers awards, ceux qui avaient le moins de suspense, j'ai envie de dire. On commence par le Cy Young, où pour l'American League, c'est le lanceur des Rays, des Blue Jays, pardonnez-moi, Robbie Ray, qui remporte le trophée. Et pour la National League, c'est Corbin Burnes. Marion, comme d'habitude, je commence par toi. Là, c'était vraiment aucune surprise des deux côtés. C'était les noms qu'on attendait.
Alors, c'était les noms qu'on attendait. Après, je sais que Bastien, on avait fait un petit tweet. Je pensais quand même pas que ça allait se jouer aussi... Enfin, que ça allait être aussi peu serré, je vais dire, en American League. Entre Robbie Ray et Gerrit Cole, parce que je ne pense pas qu'il y avait non plus un écart qui fasse qu'il y en a un qui est quasi unanimité, je crois, une ou deux voix près, et l'autre, voilà, qui soit. Et Gerrit Cole qui soit désigné deuxième. Donc, je ne suis pas surprise par le vainqueur, je suis surprise par en fait, les votes, en fait, l'écart qu'il y a eu entre les deux. Robbie Ray, c'est quand même une très belle histoire. On sait que l'année précédente, il a une ERA à plus de 6, enfin, il est complètement au fond du trou, et là, c'est vrai que ça a été un peu la révélation. De le voir à ce niveau-là, c'était pas lui qu'on attendait comme fer de lance de la rotation des Blue Jays, et c'est finalement lui qui a failli les emmener, enfin, pas tout seul, hein, évidemment, on parlera d'un autre gars qui était concurrent pour un autre award, mais en tout cas, c'est lui qui a porté la rotation des Blue Jays, donc bravo à lui. En plus, il fait ça alors que je crois qu'il est agent libre, donc c'est pas si je pense que c'est bien.
Oui, il y a pire comme résumé avant la free agency de gagner un trophée de Cy Young. Je pense que ça va rajouter quelques zéros à son prochain contrat.
Ouais, et puis du côté de la National League, eh ben c'est tout très mérité pour Corbin Burnes, qu'on a vu absolument dominateur. Voilà, moi c'est pas un regret, mais voilà, dès qu'il y a Max Scherzer, un finaliste pour le Cy Young, j'ai toujours envie qu'il en décroche un de plus, parce que pour moi c'est le lanceur de la génération actuelle, voilà, mais aucun, non, pas du tout, Corbin Burnes, c'est tout à fait mérité.
Oui, en plus, on le rappelle, hein, Corbin Burnes, il a été historique en début de saison en battant pas mal de records. Il me semble que c'était des manches consécutives sans but sur balle de mémoire. Donc, c'était vraiment impressionnant son début de saison. Et pour revenir sur le cas Gerrit Cole, je pense qu'il a payé sans doute sa chute en fin de saison où il a été vraiment en dessous de tout. Et je pense que ça a dû rester dans la tête des votants. Et c'est pour ça que les votes sont aussi déséquilibrés. C'est qu'en fin de saison, Gerrit Cole a vraiment été... plutôt très mauvais, Bastien.
Ouais, je pense que ça fait partie des choses qui ont fait tourner la balance pour Biré plutôt que pour Cole. Mais après, c'est vrai, comme le disait Marion, et comme ça m'a fait râler dans la semaine, hein, c'est vrai que tu as 29 premières places pour Ray et une deuxième place, et une première place pour Cole et 29 secondes places. Personnellement, je n'ai pas eu l'impression que ces deux mecs-là dominaient complètement le baseball cette saison, quoi. Et là, je me demande comment ça c'est possible. Je ne parle pas de première place, hein, d'accord, mais que des mecs comme Lance Lynn, comme Eovaldi, par exemple, n'ont pas une seule seconde place, que les mecs se sont totalement matrixés à mettre toute leur première place sur ces deux-là, et que la différence soit telle que Robbie Ray, finalement, en est 29 sur 30, c'est difficile à comprendre. Après, aucune question, comme vous le dites, hein, sur le vainqueur. Robbie Ray, il a mérité son Cy Young. Il est en tête dans la plupart des catégories statistiques. Il est en tête au niveau du WAR. Il est en tête au niveau ou deuxième au niveau des strikeouts. Donc, il a vraiment un bon résumé de Cy Young pour la saison. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la façon dont c'est parti sur vraiment une course à deux chevaux avec un cheval, encore une fois, au-dessus, tu as l'impression que c'est un peu, c'est presque ce qu'aurait été le bilan de Grom s'il avait continué la saison comme il avait commencé, à peu près, même sans forcer, quoi. Et c'est pas l'impression que ça a donné quand même sur le terrain. Pour la National League, On aurait pu penser quand même que Scherzer, avec sa fin de saison de malade, bon, même s'il a craqué ensuite en post-season, ça ne rentre pas en compte dans le vote, allait finalement réussir à aller chercher la récompense. Pour moi, Corbin Burns, c'est la bonne réponse. C'est celui qui, en l'absence de DeGrom, était l'autre lanceur le plus impressionnant. Wheeler, le problème qu'il va avoir, c'est que c'est un cheval de trait. C'est un mec qui aligne les innings, qui est de très bonne qualité, hein, qui a fait des matchs énormes. Je me souviens d'un complete game ou de 8 manches contre les Mets pendant la saison où il a absolument, enfin, c'est pas difficile d'humilier l'attaque des Mets, mais il était vraiment impressionnant. Mais il a peut-être pas ce côté
ace.
Spectaculaire.
Il a pas ce côté ace que peut repérer un peu ce trophée de Cy Young qui récompense très souvent les vrais lanceurs avec une aura particulière.
Voilà, c'est ça. En fait,
c'est peut-être ce que tu reproches à cette cuvée 2021, c'est peut-être ce manque d'aura pour ces aces récompensés, quoi.
Ouais, après Corbin Burns, il a quand même justement quelque chose qui se dégage de lui, alors que Wheeler, je sais pas si c'est de l'avoir vu en plus grandir et vraiment grandir tout doucement chez les Mets, mais alors voilà, c'est vrai qu'il dégage pas encore, hein, ça va peut-être venir, il dégage pas grand chose en fait qui donne cette impression de star. Et ça, quand c'est un vote d'humain, à un moment ou à un autre, ça peut faire la différence, hein, parce qu'on est à 10 points de différence entre les deux. Est-ce que Corbin Burns a fait la différence parce qu'il a ce côté un peu grande gueule et puis ce côté un peu star? Pour moi, c'est peut-être la différence. Les deux, voire les trois, méritaient le trophée sans aucun souci.
Mais je trouve que c'est quand même pas mal que Zach Wheeler soit cité dans cette course, parce que ça récompense cette très bonne performance du côté de Phillies. Ouais. Alors qu'on pensait qu'il était quasiment fini après son passage chez les Mets, il a bien rebondi et il s'est trouvé une nouvelle force du côté de Philadelphie. Tant mieux pour Philly, qui attend toujours de retourner en playoff malgré justement Bryce Harper qui a fait une saison de MVP et qui est donc élu MVP en National League. Bon, c'est peut-être sans trop de surprise, même s'il y avait quand même une belle bataille, hein, pour ce trophée avec Juan Soto notamment. Je pense que c'est les deux qui étaient les plus favoris, en tout cas. Et du côté de l'American League, évidemment, sans surprise, Shohei Ohtani, qui devient donc le deuxième japonais à remporter un titre de MVP en MLB, mais surtout, il a été élu à l'unanimité MVP. Bon, en même temps, c'était plutôt évident, vu la saison historique et légendaire du japonais.
Ah oui, évidemment, il ne pouvait pas en être autrement, même si voilà, j'ai une affection particulière pour notre ami Vladi, mais il était évident que le titre allait être pour Shohei Ohtani et à l'unanimité. Tu l'as dit, saison historique, saison légendaire. Les qualificatifs manquent pour qualifier ce qu'il a fait. Donc, c'est super. Moi, je vois ça surtout comme… Pas une réponse aux critiques, mais je veux dire, on l'attendait tellement, enfin, il y a eu tellement de hype autour de lui depuis qu'il est arrivé en MLB. On se demandait, il a été blessé, on se demandait vraiment si sa position de two-way player était tenable. Donc, je trouve que c'est génial de voir qu'il a pu. On verra ce que les années prochaines vont donner, mais au moins que sur une saison, il ait montré que, bah oui, c'était possible d'être aussi bon partout, quoi. Donc vraiment, vraiment super contente. Après, pour ce qui est de Bryce Harper, ben, ils sont peu nombreux finalement les joueurs à avoir été MVP pour deux franchises différentes. Donc c'est le cas pour Bryce. Il était en concurrence avec son ancien coéquipier des Nats. Donc c'est mérité. Il est un peu. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il est repassé un peu sous les radars, hein, depuis qu'il est à Phillies. Enfin, on l'a beaucoup attendu la première année, hein, puisqu'il avait signé ce mirifique contrat. Et justement, il avait déçu parce qu'on s'est dit, bah voilà, il n'assume pas. Là, il était vraiment sous les radars. On sait que la nouvelle génération a pris le lead, j'allais dire, des Soto, des Tatis. On en parle beaucoup plus à l'heure actuelle que Bryce Harper. Bah, finalement, je trouve que c'est une belle revanche pour lui d'avoir réussi à conquérir ce titre et de montrer qu'il est toujours là. Bastien l'a dit, le truc maintenant, c'est qu'il faut qu'il ramène. Et j'ai bien dit qu'il ramène, parce que c'est lui qu'on attend, c'est le franchise player. Il faut qu'il ramène les Phillies en playoff. Maintenant, c'est son prochain challenge, mais cette fois, il va falloir que ça marche collectivement.
Malheureusement pour les Phillies, on ne va pas revenir sur leurs problèmes. Mais il va falloir s'acheter un bullpen, hein, parce qu'une nouvelle fois, ça a été l'un des pires groupes de toute la MLB pour la deuxième saison consécutive. Parce que si on regarde bien, sans ces matchs ratés et perdus par le bullpen, les Phillies seraient largement devant nos amis des Braves. Et là, on aurait une toute autre histoire en World Series. Mais ça. C'est des what if qu'on n'a pas envie d'évoquer. Mon cher Bastien, pour Bryce Harper et Shohei Ohtani, évidemment, bah, il n'y avait pas trop de débat. Harper a été stratosphérique en fin de saison. Il a tout donné. Il a porté toute la ville de Philadelphie sur ses épaules pour tenter d'accrocher la post-season. Et Shohei Ohtani, bon, on en a suffisamment parlé tout au long de la saison. Évidemment, c'est indiscutable.
Ouais, on va commencer par Shohei Ohtani, hein, c'est assez simple. Il finit la saison avec un OPS plus de 258, donc 58% meilleur que la moyenne des batteurs de MLB. Un ERA plus de 141, donc 41% meilleur que la moyenne des lanceurs de MLB, avec 46 home runs, je crois, 26 bases volées.
Ouais, 100 points produits.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est des deux côtés. Hein. Je crois qu'il a un truc comme 170 strikeouts. Voilà. Enfin, il a été absolument fantastique dans les deux aspects. Hein. Donc un IRA normal, donc pas plus de 3,18. Il y a rien à dire. Most valuable player, hein, que c'est valuable.
Ah bah, je pense que lui, il est la définition parfaite du most valuable player.
Voilà, c'est voilà. même s'il n'a pas réussi à ramener son équipe en playoff, et mais encore une fois, c'est les Angels, hein, ils ont perdu Trout, ils ont perdu Rendon une partie de la saison, ils ont une rotation
de minor league,
ouais. Une rotation de minor league, on peut dire ça, avec même les mecs qui arrivent, qui sont forts, en une saison, ils réussissent à les passer à la machine à laver, et puis ça devient des. Enfin voilà, ils ont mon bras, les mecs, à la fin. Donc, c'est pas. C'est difficile. Et lui, ce qu'il a apporté quand même sur cette saison, c'est incroyable. D'être capable tous les jours de passer à la batte et tous les 5 jours, paf, allez hop, je t'envoie sept manches tranquilles comme ça avec une dizaine de cas. C'est voilà, il n'y a rien à dire. C'est unanime et il a fait une saison qui va rester parmi peut-être les plus grandes saisons qui est parmi les plus grandes saisons des 30 dernières années, sans aucun
et
doute.
Même, et peut-être même de toute l'histoire de la MLB, hein, parce que bah, être aussi performant en two-way player, ça rappelle évidemment Babe Ruth. Donc quand tu commences à être comparé à Babe Ruth, je pense que ta saison est plutôt pas mal.
Ah, Babe Ruth, le Joey Gallo du Bronx.
C'est ça.
Ah, mais on peut plus dire ça maintenant que Joey Gallo.
Il y en a qui cherchent les problèmes. Heureusement que Gaëtan n'est pas avec nous parce que je pense qu'il serait en train de se casser la tête dans le clavier, mais c'est un autre débat évidemment. Et donc pour Bryce Harper, oui, hein, il est là et heureusement qu'il est là pour les Phillies, quoi.
Ouais, Harper, et puis ouais, heureusement qu'il est là, bon, enfin, même si ça n'a pas suffi, parce que comme tu disais, il y a beaucoup d'autres choses qui tiennent pas la route, hein. Les Phillies et les Mets, c'est quand même un sacré gâchis saison après saison, hein.
Surtout les Phillies ces dernières années, avec tous les investissements qu'ils ont fait avec Realmuto, avec Aaron Nola, Zach Wheeler et Bryce Harper. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc attendez-vous à qu'ils soient plutôt très actifs cet hiver une nouvelle fois pour renforcer leur bullpen. Ça tombe bien, il y a pas mal de monde.
Ouais, je pense que ça va, ils vont essayer, mais enfin, à chaque fois, c'est un peu comme les Angels avec leurs starters. À chaque fois, ils vont chercher un super closer, un super releveur. Et puis, en 2 minutes, le tigre se transforme en chat. Donc, je ne sais plus qui sont allés chercher.
Archie Bradley, ils étaient allés.
Archie Bradley, tu en avais un autre. Kinsler. Enfin, bref. À chaque fois, ils vont chercher des mecs qui sont parmi les meilleurs releveurs de la saison précédente. Et les gars, finalement, ils finissent avec un ERA de 6,50. Donc, on va attendre de voir.
Il y a des problèmes un peu plus profonds du côté de Philly, mais en tout cas, ce problème ne s'appelle pas Bryce Harper.
Et donc, pour venir à Bryce Harper, en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'il a là où il a vraiment su se réinventer, c'est très bien parce qu'il s'était quand même vraiment transformé en frappeur de puissance bête et méchant depuis 2-3 années. À savoir qu'il a, de son premier titre de MVP, il avait une moyenne de 33%. Il est descendu jusqu'à 25%, 24-25% pendant 2-3 ans. où tout ce qu'il faisait, c'est essayer de frapper le home run, essayer de frapper le home run, essayer de frapper le home run.
Il essayait de justifier un peu son contrat en voulant trop bien faire, je pense. Et que là, je pense que cette saison 2021, il a enfin accepté ou peut-être passé cette pression du contrat. Et on a retrouvé le Bryce Harper des Nationals, ce garçon qui a été sélectionné au premier tour de la draft, quoi.
Oui, ouais, c'est ça. Et puis le gars qui est capable de monter sur base, qui est capable de frapper à la puissance et au contact, qui est capable de faire avancer l'équipe. Pas ce gars des années qui était… Je parlais de Joey Gallo, justement. C'était quand même la base, le maître étalon du frappeur de puissance qui ne sait pas faire autre chose. Hein. Bryce Harper, depuis 2-3 ans, il était vraiment devenu ce genre de joueur. Et là… Finalement, il s'est remis dans le bon sens et il s'est remis dans le sens de frapper d'abord pour produire. Et évidemment, quand il est dans cette mentalité-là et dans cette approche-là, c'est toujours un des meilleurs joueurs de MLB, sans aucune question. Il fait partie du top 10, vraiment des vrais super joueurs de son époque.
Effectivement, et donc sa récompense, il rentre dans la caste fermée des joueurs avec deux titres de MVP, donc toujours actifs. Plutôt une belle performance et il est encore loin d'avoir terminé sa carrière, donc on n'est pas à l'abri qu'il aille nous en chercher un petit troisième, notre ami Bryce Harper. Voilà pour les awards de cette QV 2021. Pour les autres, les awards un peu plus, j'ai envie de dire, secondaires comme les Gold Glove, les Silver Slugger, etc., n'hésitez pas à nous retrouver sur notre Twitter. On a publié tout l'intégralité des résultats, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir tout ça. Nous, on va plutôt passer à notre deuxième gros dossier de cette émission. C'est donc la Free Agency qui va rythmer tout cet hiver. Donc c'est parti, on y va. One out, the pitch. Swing it along. Donc, comme je l'avais dit en introduction, la MLB ne dort jamais. Hein. Quand il n'y a pas de match, il y a toujours de l'actualité. Donc là, c'était la saison des awards. Et maintenant, c'est donc la saison de la free agency et des transferts où les general managers vont devoir redoubler d'efforts pour renforcer leur équipe ou aller chercher des tours de draft et des jeunes prospects pour les équipes un peu moins en forme. On a déjà eu quelques mouvements qui sont passés, en tout cas pour les gros noms. La première surprise, j'ai envie de dire, c'est le contrat donné à Eduardo Rodriguez, donc 77 millions sur 5 ans par l'équipe des Tigers. Eduardo Rodriguez, ce n'est pas l'un des meilleurs lanceurs de la MLB, c'est un très très bon lanceur de la MLB, mais on va dire qu'il a quand même fixé la barre très très haut pour ce marché. Hein.
Oui, ça part fort, ça part très fort avec ce contrat. Tu l'as dit, ce n'est pas un des top pitchers de la MLB, après il a fait des prestations assez solide avec les Red Sox. Je trouve que c'est un bon move de la part des Tigers qui doivent encore se renforcer avant de vraiment pouvoir être compétitifs. Ils ont des jeunes lanceurs, hein, Casey Mize en premier. Donc oui, faire venir Rodriguez, c'est un bon move. Ça a lancé un petit peu la saison. Mais comme tu l'as dit, je trouve que ça part sur des bases hautes. On le sait. On va en parler peut-être un peu plus tard, ça risque de coincer dans quelques semaines au niveau de la MLB et du fameux CBA. Donc est-ce que Rodriguez, il a peut-être bien fait, j'allais dire, de signer.
Lui, il a pris évidemment la bonne décision, hein, évidemment. Voilà. Un tel contrat, et puis surtout, il vient apporter de l'expérience à la jeune rotation des Tigers. Hein. On sait Casemiz, Taris Kubal et tous les jeunes qui sont Matt Manning qui sont en train d'arriver du côté des Tigers. C'est bien aussi d'avoir un peu une encre, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour encadrer un peu tous ces jeunes loups.
Oui, exactement. Donc voilà, ça a lancé un peu les hostilités. Ce n'était pas le nom, tu l'as dit, le plus ronflant des agents libres. Ça le mérite pour moi, en tout cas, de montrer que les Tigers ont envie de faire des choses, pourquoi pas dès l'année prochaine, ou en tout cas, voilà, de continuer ce rebuilding. Ça va dans le bon sens, en tout cas, pour les Tigers. C'est comme ça que je vois cette signature.
Et en tout cas, sachez que de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, attendez-vous à pas mal de mouvements du côté des Tigers. Ils sont notamment très très chauds pour signer un petit Carlos Correa. pour renforcer un peu leur arrêt court et amener un peu de star system du côté de Détroit, eux qui ont très
On
envie
en veut
de.
plus chez les Yankees de Correa, c'est fini là. Enfin,
Ah
en tout cas, je pense
bah.
que c'est grillé tout seul, donc les Tigers peuvent le prendre sans aucun problème.
Bah, Brian Cashman, en tout cas, avait l'air de dire que Correa était toujours accueilli à bras ouverts du côté de New York. Hein. Donc, je pense
Ah
que
ouais,
vous.
sa déclaration, je pense que les fans vont être ravis de l'accueillir. Oui, ça c'est
Ah,
clair.
est-ce que c'est mieux que Gleyber Torres? Ça, c'est un
Un
autre. Un autre.
normal de Derek Jeter, donc il a toujours sa place chez les Yankees.
C'est ça, c'est ça. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de gros noms qui sont disponibles hein, sur cette free agency, notamment du côté des shortstop, Javier Baez, Trevor Story, Carlos Correa, donc, et Corey Seager, l'ancien joueur des Dodgers. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous ai fait un petit article pour The Strikeout où je répertorie les 20 meilleurs joueurs libres de cette QV. Donc, vous pourrez retrouver un peu quelques analyses et des petites prédictions de mon côté. En tout cas, Eduardo Rodriguez, je ne l'avais pas. Mon cher Bastien, ensuite, en autre signature un peu surprise, j'ai envie de dire, un ancien de chez toi, encore un qui s'enfuit du côté du Queens pour aller vers peut-être des jours meilleurs, c'est Noah Syndergaard qui signe un contrat d'une année et de 21 millions de dollars avec donc les Angels. On rappelle, il a refusé la qualifying offer des Mets, donc qui était à hauteur de 18 millions et des broutilles. Et donc, les Mets récupèrent un tour de draft pour Noah Syndergaard, alors que ce dernier n'a lancé que deux manches sur l'année et demie précédente.
Ouais, alors ça fait quelques minutes que j'essaie dans ma tête de donner une opinion sur le sujet sans passer pour un véritable rageux. Mais alors, c'est compliqué en fait avec Syndergaard parce que comme tu dis, il n'a pas lancé depuis 2 ans. Il a un potentiel physique absolument incroyable. Hein. C'est pour ça aussi qu'il a pu récupérer un contrat pareil, mais même sur un an. Mais il a toujours ce problème, c'est ce manque de contrôle. C'est vraiment puissance, puissance, puissance. Il n'a jamais réussi à confirmer chez les Mets. Hein, ça fait quand même maintenant 6 ans qu'il a fait ses débuts en MLB. Il n'a jamais réussi à confirmer et à canaliser sa puissance de fou pour en faire quelque chose de valable sur la durée. Il n'y a rien à dire. Hein. Si les Angels sont prêts à faire le pari, à lui donner 21 millions comme ça, en se disant que sur un malentendu, hein, on prend le moins et le moins, ça va faire plus. C'est super pour lui, c'est super pour les Angels. Ça lui permettra aussi de donner une bonne idée d'où il est pour ensuite voir ce qu'il peut récupérer parce qu'il va chercher un contrat longue durée à partir de l'an prochain sur les performances de la saison qu'il aura fait à Los Angeles. Et pour les Mets, est-ce qu'il fallait donner 18 millions à Syndergaard? Et bon, ils ont fait la
Enfin,
couverture. Est-ce
au
qu'il
final,
fallait.
ça a payé, hein. Au final,
Ouais.
d'avoir fait cette qualifying offer à Syndergaard, parce que des rapports que j'avais lus, il était prêt à accepter l'offre des Mets pour revenir sur la qualifying offer. Mais je pense que du coup, les Angels sont venus avec un peu plus d'argent et donc il a décidé de capitaliser là-dessus, quoi. Et ça peut se
Ouais.
comprendre, hein.
Et visiblement, il n'a pas de contact du tout avec les Mets sur le sujet non plus. Bon, c'est tout un peu bizarre. C'est comme beaucoup de choses qui se passent autour des Mets. Donc, très bien pour lui. Maintenant, il faut absolument, absolument que les Mets s'attachent à re-signer Stroman s'ils peuvent. Et puis un autre bon lanceur parce que sinon, il va quand même avoir un sacré tour dans la rotation. Pour l'instant, les lanceurs 4 et 5 sont Peterson et l'autre jeune qui a. Ah, ça y est, je l'ai oublié.
Ah,
L'autre
ça,
jeune.
t'inquiète pas, ça arrivera, mais c'est tellement Mets que
Ouais.
voilà. Mais en tout cas, je vous conseille d'ailleurs, un petit passage, de suivre le compte Twitter de Marcus Stroman. Hein, il est vraiment exceptionnel. Il s'est d'ailleurs, Marion, amusé avec les, je sais pas si tu as vu, avec les fans des Yankees sur Twitter en disant que jamais il signerait du côté de New York, enfin du côté des Yankees, quoi.
Ben, écoute, j'allais dire, malheureusement au niveau sportif, c'est dommage parce que c'est un bon lanceur, mais après, ben, s'il ne veut pas venir dans la franchise et la remonter au plus haut niveau, et ben, tant pis pour lui.
Non, mais voilà, mais en tout cas, Marcus Stroman qui est agent libre, je pense que c'est une des bonnes pioches de cette QV, en tout cas de la Free Agency. Marcus Stroman, c'est un lanceur qui a trouvé un peu de régularité du côté des Mets, c'est ce qui lui manquait, et je pense que ça peut être un très bon deuxième lanceur. Et on parle de lui notamment bah, du côté des Angels, des Blue Jays et donc évidemment des Mets. Oui, vas-y,
Ouais.
Bastien.
Oui, absolument. Donc, juste pour finir tout à l'heure, c'était Tyler McGill, l'autre jeune dont je parlais, qui a fait quelques bonnes performances. Oui, Strowman, il a fait une saison vraiment, vraiment, vraiment costaud pour les Mets. Hein. Il est parmi peut-être les 10-15 meilleurs lanceurs de National League cette saison, même si c'est difficile à quantifier. Mais toujours fiable, toujours 6 ou 7 manches. Pas forcément un lanceur impressionnant, pas beaucoup de cas, mais vraiment un lanceur qui a appris à vraiment contrôler son arsenal pour être capable de jouer, de lancer des matchs et d'être vraiment performant sur la durée, sur toute une saison. Et qui a pris le leadership de la rotation quand DeGrom s'est blessé et que Tyron Walker a disparu, a explosé en vol en plein milieu de saison. Donc, vraiment une bonne affaire pour l'équipe qui va le recruter. Avec, on espère, du côté des Mets, je pense qu'ils espèrent vraiment en faire leur deuxième lanceur permanent, voir le premier lanceur quand DeGrom va se blesser après une semaine de saison. Donc, c'est
ouais, on l'a dit, les Mets, ils ont aussi une grosse intersaison à régler, hein, avec les départs notamment de Conforto, de Stroman. Il y a pas mal de monde à remplacer, mais on l'a dit en début d'émission, ton ami Steve Cohen a décidé d'ouvrir les poches et le porte-monnaie. Donc, on va voir ce que le nouveau général manager Billy Epler va faire de tout cet oseille, comme dirait l'autre. Marion, je me tourne vers toi. Il y a une autre petite signature que j'ai trouvée très, très intéressante, plutôt une re-signature, ou plutôt, peut-être même plus exactement, une prolongation, pour être tout à fait exact. C'est celle de José Berrios du côté des Blue Jays. Moi, vous savez mon amour pour ce lanceur que je trouve très, très sous-coté. Et je trouve que c'est une très bonne pioche de la part de Toronto d'avoir prolongé Berrios pour un contrat de 7 ans et 131 millions de dollars. Donc, plutôt intéressant comme contrat, pas trop cher et surtout sur une longue période pour un lanceur qui, on sait ce qu'il va faire. Donc, il aura toujours un ERA en dessous de 4. Il sera toujours là et pas souvent blessé. Donc, vraiment, j'aime énormément cette re-signature.
Ouais, ça va dans le. Ça confirme que les Blue Jays ont vraiment envie de se replacer dans le top niveau de la MLB. Ils ne sont pas passés loin cette année, on l'a dit, de faire les playoffs. C'est un super, super move de le faire aussi vite. On sait que Berrios, il est arrivé à la trade deadline au mois de juillet. On sait que les Blue Jays se sont quand même séparés d'un de leurs top prospects dans l'histoire, Austin Martin, pour essayer de faire ce fameux push pour les playoffs. On avait dit aussi que c'était. Alors certes, tu perds ton prospect, mais de toute façon, Berrios, il était sous contrat encore pour un an et demi, donc ce n'était pas une affaire de le prendre 6 mois pour tenter le tout pour le tout. Il avait un an de contrat derrière, maintenant ils le font signer, tu l'as dit. Moi, je trouve que le montant est vraiment bien pour un joueur qui est jeune, hein, qui n'a pas encore 30 ans. Je pense que ça va être, ça sera le, si ça ne l'est pas l'année prochaine, parce qu'il y a quand même un nom encore un peu plus ronflant qui est pour le moment le numéro 1 de la rotation, c'est Ryu bien sûr. Mais ça sera Berrios sans aucun doute le fer de lance et le lanceur numéro 1 de la rotation des Blue Jays pour les années à venir. Quand on a vu ce qu'il y avait sur le terrain dans cette franchise, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc un move parfait de le faire, on l'a dit, on en revient encore. La situation va peut-être se bloquer dans quelques semaines en MLB. Donc voilà, s'assurer aujourd'hui d'avoir Berrios pour les 7 prochaines années, c'est un super move de la part de Toronto sans aucun contexte. Ils vont avoir beaucoup de choses, de jeunes joueurs à faire prolonger dans les années à venir avec Guerrero, avec Bichette et compagnie. Mais au moins, ils ont Berrios et ça, c'est vraiment très bien.
Oui, comme je le disais, moi je trouve que c'est une des très très bonnes additions. Berrios, c'est pas quelqu'un qui va faire du bruit, j'ai envie de dire, mais comme je le disais tout à l'heure, on sait ce qu'il va faire. Il a pas souvent de trou d'air pendant une longue période de la saison. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce joueur et je trouve que donc le contrat est presque parfait, j'ai envie de dire, pour les Blue Jays. Un contrat qui est un peu moins parfait peut-être, c'est celui donné par les Astros à Justin Verlander. Verlander qui a donc signé pour une année à 25 millions plus une autre en option à 25 millions. J'ai l'impression que Houston n'a pas appris de son erreur puisque, on le rappelle, les Astros avaient offert 66 millions sur 2 ans à Justin Verlander il y a 2 saisons et que ce dernier n'avait lancé qu'un seul match sur ce contrat. Donc Houston qui retente sa chance avec le futur Hall of Famer. Bastien, qu'est-ce que tu penses un peu de cette signature?
Signature pour service rendu. En gros, on n'a aucune idée de ce que Verlander va être capable de faire sur les deux prochaines saisons, parce qu'il a quand même 39 ans, je crois, maintenant. Il a une carrière énorme derrière lui, mais les Astros, ça ressemble quand même un peu à l'énergie du désespoir. Tu as l'impression qu'il lui donne vraiment un contrat à Paris, mais un contrat à 25 millions quand même, quoi. Enfin, à potentiellement 50 millions, parce que même si ça se passe super bien pour lui, on ne voit pas du tout comment Verlander, après une année à 25 millions, va décider de ne pas prendre son option pour la deuxième, vu que c'est une option joueur. Il doit avoir des certitudes sur son niveau, sur sa condition physique, et sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau la saison prochaine. On va pas juger les scouts de MLB et faire leur boulot à leur place, mais ça semble quand même surprenant. C'est surtout la deuxième option, hein. La deuxième option d'ailleurs qui est ce qui a fait la différence, parce que les Yankees offraient exactement la même valeur à Verlander, mais les Yankees ne lui offraient pas la deuxième année en option. Donc c'est ça qui a fait la différence. En attendant, les Astros, ils vont mettre donc 25 millions sur deux, enfin 50 millions sur deux ans sur un joueur qui arrive en gros sur son expérience, son histoire, mais sans aucune certitude sur la saison à venir. Ça peut être une super idée. On va voir comment ça se passe aussi avec le nouveau pitching coach, parce qu'évidemment, il a bossé avec Brent Strom, qui est parti aux Diamondbacks. On ne sait pas du tout non plus comment ça va se passer. Peut-être que finalement, la magie noire du pitching des Astros ne fonctionnera plus l'an prochain. Est-ce que ça veut dire que comment ça va se passer pour lui, hein? Lui, normalement, doit être au-dessus de cet aspect-là, contrairement à d'autres jeunes lanceurs.
Il n'en est plus dans la période d'apprentissage, j'ai envie de dire. Justin Verlander, comme pouvaient être les jeunes lanceurs, effectivement.
Mais ça va être intéressant à voir, en tout cas. Ça semble un gros pari, mais bon, les Astros ont été plutôt bons pour faire des gros paris de ce genre dans ces dernières années. Donc,
Et puis, ils ont un peu d'argent hein, de côté, les Astros, puisque le gros contrat de Zagrinki se termine, Carlos Correa se termine, et donc le contrat de Verlander se terminait. Donc, le contrat à 33 millions la saison. Donc, il y a un peu de cap space pour nos amis de Houston. Donc, faire un pari à 25 millions sur Verlander, pourquoi pas. Apparemment, son showcase, après sa, j'ai envie de dire, sa réadaptation et sa reprise a été plutôt... positif et intéressant, donc pourquoi pas le tenter Verlander pour venir encore une fois encadrer un peu cette jeune rotation des Astros. On a vu sur ces World Series et sur cette post-season qu'il manquait encore un véritable ace hein, dans cette formation des Astros. Il y a beaucoup de bons lanceurs, mais il n'y a pas d'excellents lanceurs, j'ai envie de dire, comme peut l'être Justin Verlander.
Il manquait clairement un lanceur capable justement de maîtriser la scène des World Series, d'être capable de vraiment dominer une attaque adverse.
Un ace qui impressionne et qui fait peur l'équipe adverse. Les lanceurs des Astros sont très bons, mais ils font pas peur. Enfin, tout le monde se dit je suis capable de frapper contre ce lanceur. Alors que quand Justin Verlander était sur le monticule, en tout cas à l'époque en 2017, tu sais que tu allais te prendre 12 strikeouts avec des balles rapides à 100 miles par hour, et donc tu avais peut-être un peu plus de désespoir pour affronter Justin Verlander. Oui, Marion, tu voulais rajouter quelque chose peut-être?
Moi, j'ai juste, je ne reviendrai pas, vous en avez très bien parlé, j'ai juste un regret, en fait, dans cette signature, c'est de ne pas voir Justin Verlander retourner aux Tigers, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'arrivée de Rodriguez aux Tigers.
C'est vrai que c'était la grosse piste qui retourne.
Moi, j'aurais trouvé ça bien qu'il retourne aux Tigers pour justement entourer ses jeunes lanceurs. Je le vois mal le faire, comme Bastien l'a dit, s'il fait une saison relativement correcte, il va prendre sa player option, bien sûr, pour la deuxième année. Donc après, 41 ans, 42 ans, ça va quand même... Ah, on ne sait jamais.
Il a dit qu'il voulait lancer jusqu'à ses 45 ans, Justin Verlander. Ouais. Quand on voit comment il a vieilli et qu'il continue à être très très performant à 37 ans, 38 ans, où il a encore gagné il était encore dans la course pour les Cy Young et qu'il a remporté un Cy Young d'ailleurs avec les Astros. On peut se dire qu'il est encore capable de lancer jusqu'à 45 ans et donc qu'il aille finir sa carrière quand les Tigers seront revenus sur le devant de la scène, qu'ils viennent faire une petite pige à 42 ans, 43 ans avec les Tigers. C'est un contrat peut-être un peu moindre, mais pour venir gagner un titre avec Détroit. Et c'est ce qui manque sans doute, je pense, et à lui, c'est gagner un titre avec ses Tigers, lui qui était passé très près à chaque fois avec Détroit, quoi.
Ouais, mais ce qui serait dommage, c'est qu'ils reviennent un peu avec un bras en mousse et qu'ils reviennent juste pour... pour finir sa carrière aux Tigers. Moi, je pense que ça serait bien qu'il revienne avec encore la possibilité de faire des choses. Ça rendrait plus justice à sa carrière, en fait, que de devoir arriver, voilà. Ça serait très bien qu'il vienne encadrer, mais dans ce cas-là, prend une place dans le staff et ne prend pas une place dans la rotation. En fait, c'est un peu mon idée, mais bon,
on connaît l'éthique de travail de Justin Verlander, c'est pas le souci. On sait qu'il prend bien soin de lui, de son corps et de sa routine de lanceur. Donc, je me dis qu'il pourra toujours rendre de fiers services, même après ses 40 ans, bien tassés. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, en tout cas, des grosses premières signatures de Free Agency. Je vais vous poser une petite question, Marion et Bastien. Pour vous, quel sera le prochain joueur à signer un contrat? On va commencer par toi, Marion.
Ah, tu as quand même oublié de signaler la grosse signature des Los Angeles Dodgers qui ont quand même recruté Andrew Heaney. Hein. C'est vraiment là, ça va être l'ace de la rotation des Dodgers.
Oui, bah écoute, comme venir, tu...
Mais bon, on n'en a pas parlé, c'est dommage.
C'est vrai que j'ai décidé de ne pas parler de cette magnifique signature d'Andrew Heaney qui a signé une saison mémorable du côté des Yankees. Tu pourras mieux en parler qu'en parler que moi, mais évidemment, petite signature qui pourra s'avérer être quand même importante pour les Dodgers, d'avoir un peu de profondeur d'effectif au niveau du starting pitcher. Ça fait jamais de mal, en attendant peut-être de les voir re-signer Max Scherzer, qui est le gros objectif des Dodgers cette intersaison. Évidemment, Mad Max en bleu, c'est l'objectif. Et donc, Marion, je te pose cette question. Qui voudrais-tu voir signer le prochain, ou quelle sera la prochaine signature selon toi d'un agent libre ou peut-être d'un transfert, pourquoi pas?
Alors, moi, je ne prends pas trop de risques, mais je pense qu'un des top players qui va bientôt signer son contrat, c'est Freddie Freeman qui va re-signer avec les Braves, même si on sait que ça ne se passe finalement pas aussi smooth que prévu. Parce que
le point de dissension, c'est la sixième année de contrat demandé par Freeman. Tout le reste, ils ont l'air d'être plutôt d'accord entre Atlanta et Freeman. Les deux ont dit qu'ils voulaient que l'autre revienne, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est une question d'heures. Que Freddie Freeman effectivement re-signe avec les Braves, mais on n'est pas à l'abri que les Yankees viennent mettre évidemment comme d'habitude leur grain de sable pour essayer de récupérer Freddie Freeman.
Et autrement, mon deuxième pari, celui que j'aimerais bien voir rejoindre une équipe à fort potentiel, c'est Starling Marte, que je trouve qu'il est un excellent joueur et j'aimerais bien, il a fait une très bonne saison avec les Marlins et Athletics. Non, Martin, je ne regarderai pas mon écran pour te voir faire des grands signes. Je ne veux pas là où tu espères qu'il ira. Mais j'ai du mal j'ai vu ce matin un article comme quoi les Giants apparemment seraient très intéressés par la venue de Starling Marte. Et si les Giants se font signer, on parlait tout à l'heure d'un one shot des Giants sur la saison 2021. S'ils prennent Starling Marte, clairement, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose en 2022. Donc, allez, je mettrai une petite pièce sur Starling Marte.
Et je pense que tu as raison de citer le nom de Starling Marte. C'est le nom qui revient avec le plus d'insistance en ce moment du côté des États-Unis. En tout cas, les tractations seraient avancées avec beaucoup de franchises. Les équipes les plus avancées, bah, tu l'as dit, c'est les Giants. Il y a également les Astros qui sont très, très chauds pour lui. Il y a également les Marlins qui aimeraient bien le faire revenir. Donc, après une saison comme celle de Marte qui a été, j'ai l'impression, un peu sous-cotée, hein, sa saison, parce qu'il a quand même été très, très impressionnant. Gros batteur de régularité, en tout cas. Meilleur voleur de base de la MLB cette saison. C'est le prototype parfait du lead-off pour une franchise qui vise les playoffs. Et comme je l'avais dit dans mon papier, je pense qu'il aurait été parfait du côté des Yankees d'apporter un peu de nouvelles choses par rapport aux frappeurs bêtes et méchants que peuvent avoir les franchises de New York, quoi.
Si les Yankees faisaient les bons choix ces dernières années, à part la signature de Gerrit Cole, ça se saurait, cher Martin. Donc non, il n'ira pas aux Yankees a priori.
Évidemment, il préfère se focus sur quelqu'un qui crache sur Derek Jeter, et ça, c'est vraiment Yankees. Même question pour toi, mon cher Bastien. Est-ce que tu aurais une petite signature coup de cœur que tu aurais envie de voir? Et sinon, quel serait pour toi le prochain nom qui signerait pour cette intersaison?
Alors moi, j'allais partir sur exactement la même réponse que Marion, à savoir Freddie Freeman. C'est clair que ça va se faire avec les Braves et Marte. Tout le monde veut Marte. Hein. On en a parlé brièvement chez les Mets aussi.
Après la saison qu'il a faite, tout le monde a envie de signer Starling Marte, évidemment.
Voilà. Moi, je vais dire qui ne va pas signer tout de suite. C'est toute la tripotée des shortstop. Parce qu'ils vont attendre. Et ça va être un jeu de domino. À un moment ou à un autre, il y en a un qui va signer quelque part. Et à partir de là, les deuxièmes choix vont commencer à tomber. Donc, je pense qu'il n'y a pas l'équipe qui vont se concentrer sur Correa en particulier. Et ensuite, ça va commencer à tomber, tac, 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 tac. Je pense qu'on va peut-être voir Scherzer signer assez rapidement quelque part. Pour moi, ce serait peut-être le prochain. Il va pouvoir sécuriser, un peu comme Verlander sécuriser ses dernières années. Donc, rester aux Dodgers, partir aux Angels, aller dans une franchise qui a une autre franchise d'ambition. Les Mets, c'est apparemment essaient de l'attirer, mais c'est compliqué parce qu'avec son histoire avec les Nationals, on pourrait le voir finir aux Blue Jays, on ne sait jamais, parce que les Blue Jays, ils ont Berrios, mais s'ils veulent vraiment mettre un gros as pour frapper dès la saison prochaine, imagine Scherzer, Ryu, Berrios, ça te fait un bon haut de rotation. Donc, de toute façon, n'importe qui avec une ambition sera prêt à mettre 30 millions pour Scherzer.
Ah, je pense qu'il va falloir mettre un peu plus que 30 millions. On parlait quand même de sommes assez astronomiques pour un contrat de Max Scherzer. De ce que j'ai entendu, en tout cas, ça parlait de contrats courts. Donc, ouais. une à deux saisons avec des montants. On parlait même de montants pouvant aller jusqu'à 50 millions pour Scherzer la saison. Ouais. Donc, je pense qu'il va quand même falloir avoir un sacré bon porte-monnaie pour s'offrir les services de Max Scherzer. Et je pense que tu as cité un peu les franchises qu'on dessous. Voilà.
Et puis, bon, il y a quand même deux franchises, un concret illimité qui se fout totalement de la luxury tax cette année, hein, les Dodgers pardon, et les Mets.
Les Yankees.
Mais les Yankees, ils essaient quand même de rester sous la luxury tax.
Ils font juste les efforts pour la forme, mais on sait très bien que les Yankees ont certains passe-droits que certaines autres équipes n'ont pas, mais ça, c'est un autre débat.
Donc, à voir. Mais moi, je verrais bien rester aux Dodgers, et je verrais bien rester aux Dodgers assez rapidement. Et l'autre joueur qui, pour moi, risque de signer rapidement, et qui lui aussi a énormément de prétendance, c'est Chris Bryant. Je pense que ça va se dégoupiller assez vite pour lui. Il a réussi à se relancer, à montrer qu'il n'était pas complètement mort et qu'il pouvait jouer à plusieurs positions différentes. Donc je pense qu'il va rapidement choisir parmi la dizaine de prétendants qui doivent être sur son cas. Et puis encore une fois, comme pour tout le monde, on parle des Mets, on parle des Giants.
Moi personnellement, je l'avais prédit dans mon article du côté des Mets. Parce que je trouve que c'est le parfait David Wright, nouvelle génération. Je pense qu'il a un peu le même profil que le captain Mets. En tout cas, sur le terrain et en dehors, j'ai envie de dire, c'est un exemple sur le terrain et en dehors. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui manque du côté des Mets et ce qui a manqué. C'est un peu cette figure emblématique du héros, j'ai envie de dire presque lambda, entre guillemets, qui porte un peu cette équipe sur son dos au niveau du bâton. Quoi, parce qu'il y a Jacob deGrom qui a ce rôle au pitching. Mais il manquait vraiment ce capitaine de route du côté des Mets. Quoi.
Et puis un mec qui canalise un peu tout le monde, parce que Lindor, il a beaucoup de qualités. Mais alors, par contre, c'est vraiment le roi du chaos, quoi. Pour Lindor, il faut des mecs comme Bryant, comme Wright, qui soient capables de canaliser son énergie pour qu'il se concentre sur le baseball. Donc, surtout en plus en fin de saison, qu'on avait Lindor et Baez, ils sont super potes, ils sont super flamboyants, mais alors c'est un bazar innommable. Donc, c'est vrai que d'avoir quelqu'un comme ça qui ancre, avec son expérience, qui ancre le club A, ce serait pas mal. Après, encore une fois, il va avoir plein de prétendants partout, donc on verra où il signe, mais ça devrait, je pense, arriver assez rapidement.
Et sur le dossier Bryant, ne pas sous-estimer également les Mariners, qui seraient très très chauds pour faire venir Chris Bryant. Marion, tu voulais finir sur quelque chose peut-être?
J'ai une question pour vous, parce que Bastien disait que les shortstops allaient attendre. Est-ce qu'on peut, alors ils ne jouaient pas la même position, mais on se rappelle qu'il y a deux saisons, trois saisons, on parlait de Domino, mais c'était Machado et Harper, les deux méga free agents, et on attendait, c'était le premier qui allait signer son contrat et qui allait un petit peu, on approchait les 300 millions plus, moins, et ils avaient signé très tard, ils avaient signé en janvier ou en février. Est-ce que vous pensez que ça peut même aller jusque-là pour justement, en fait, qu'ils attendent le plus possible et qu'ils tirent le plus possible et que le premier qui signera un méga contrat donnera un petit peu le coup d'envoi au reste? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça aille comme ça jusqu'en janvier-février?
Bah, personnellement, moi, je pense que le marché attend l'offre de Correa parce que c'est le meilleur des arrêts courts disponibles, même si il y a duel avec Corey Seager. En tout cas, je pense que Corey Seager que Carlos Correa va fixer la barre puisqu'il va aller chercher son contrat à 300 millions et que ensuite les autres franchises vont pouvoir négocier avec les autres arrêts courts de, j'ai envie de dire, qui sont juste en dessous de Carlos pour pour récupérer des contrats. Donc je pense que notamment après il y aura Corey Seager qui partira juste après Carlos Correa parce que c'est la deuxième meilleure option. Il y aura ensuite Trevor Story et ensuite Javier Baez dans un quatrième temps qui est, je pense, ça sera plus celui la médaille en chocolat, j'ai envie de dire, Javier Baez pour les franchises qui auront voulu un arrêt court. Et il ne faut pas oublier non plus Marcus Simien, qui est considéré comme un joueur de deuxième base actuellement, mais qui peut toujours rendre des services en arrêt court. Mais pour Marcus Simien, les rumeurs que je vois, c'est plus du côté pour jouer en deuxième base du côté de Boston, notamment, qui serait très chaud pour faire venir le joueur de Toronto. Bastien, tu voulais répondre à Marion, peut-être?
Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que ça va attendre. Ça va être un petit poker menteur pendant quelques semaines. On va attendre aussi voir ce qui se passe avec le CBA, mais de toute façon, ce ne sera pas réglé avant le CBA. Et comme tu dis, on a cinq shortstop, dont un qui est polyvalent au 2B shortstop, qui cherchent tous un contrat entre 25 et 35 millions par an, qui cherchent tous un contrat sur 4-5 ans.
En donc, plus. Ouais, 5-7 ans plutôt.
Ouais. Oui, donc 4-5 ans ou plus. Mm. Et donc, ils vont tous attendre de voir ce qu'un autre joueur comparable, parce que tous ces joueurs sont comparables au moins avec un ou deux du groupe. Donc, ils vont tous attendre de voir, leurs agents vont tous attendre de voir qui récupère quoi. Moi, je verrais plutôt Story avoir son premier parce qu'il est peut-être un petit peu en dessous du reste de par l'expérience et de par la... Mais je verrais plutôt, en fait, commencer par celui qui finalement a peut-être le moins d'ambition légitime pour aller finir avec Seager et Correa qui vont se battre pour le contrat. Et pourquoi pas aller chercher un contrat similaire à ceux de
Lindor, ouais.
Lindor et Tatis les derniers.
Les Permax, ouais.
Ouais, parce que tu te dis que si et ils vont se dire justement ces joueurs-là, si Tatis, ok, avec tout ce qui est Tatis au niveau de l'aura qu'il apporte, même dans son jeune âge et de son futur, si Tatis peut récupérer 340 sur 10 ans ou 12 ans, Correa, il va se dire, attends, moi j'ai 27 ans, pourquoi j'aurais pas 340 sur 8 ans, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est le meilleur de sa génération, il n'y a aucune question.
Mais je pense que tu as pointé du doigt le gros point noir, j'ai envie de dire, c'est les négociations du CBA. Et je pense qu'on y reviendra, hein, puisqu'on n'aura pas le temps dans cette émission de parler du CBA. Donc on vous refera une autre émission, chers auditeurs, spéciale sur les CBA quand les premières indications vont commencer à fuiter concernant les dernières mises à jour entre le syndicat des joueurs et les présidents, etc. Et les propriétaires seront mis à jour. Des premiers, pour l'instant, rumeurs et bruits qui courent. C'est pas très optimiste, hein, du côté de la MLB pour un règlement du conflit. Donc on se dirige tranquillement vers une possibilité de lockout. Donc on en saura plus à partir du mois de décembre, où ça sera la fin, je crois que c'est le 1er décembre, la fin du CBA actuel. Donc les négociations vont reprendre de plus belle. Donc on fera une émission spéciale.
Manfred avait quand même l'air optimiste sur le fait qu'on puisse avoir un lockout qui dure peut-être un mois, mais au niveau de l'hiver, et qui dérange pas la préparation.
La saison régulière, oui. Il risque d'avoir un lockout au moins jusqu'au spring training, j'imagine, où ça va essayer de faire pression sur la MLB et les joueurs, évidemment. Donc ça s'annonce assez tendu, et justement, cette situation va peut-être empêcher les plus petits agents libres, j'ai envie de dire ceux de deuxième zone, de signer des contrats. Enfin, c'est... Je pense que les gros joueurs auront toujours leur contrat, leur gros contrat, parce que bah, c'est des stars, etc. Mais les joueurs un peu moins cotés, ou les joueurs qui sont agents libres, ça va être un peu plus difficile pour eux tant que le CBA ne sera pas réglé d'aller chercher un contrat, quoi.
Là, c'est bien pour des joueurs, justement, des joueurs de milieu comme Rodriguez, hein, qui ont rangé leur situation. Je pense qu'il va y avoir pas mal de ces joueurs un peu moins cotés, justement, qui vont se dépêcher de signer quelque chose avant le lockout. Et par contre, on a plein qui vont se retrouver sur le carreau et puis qui vont galérer jusqu'au printemps, oui.
Oui, Marion.
Ouais, c'était ça, c'était rebondir sur ce que Bastien disait, ou toi, pardon, je ne sais plus, mais Manfred, oui, pour le moment, il n'est pas alarmiste, hein, il dit même qu'il fait de sa priorité de réussir à trouver même un accord avant le 1er décembre, ce qui semble quand même assez improbable.
Vu l'état des négociations, oui, ça me paraît assez improbable, oui.
Mais c'est vrai, alors je ne sais pas si c'est pour rassurer la fanbase ou pas, mais oui, Manfred, pour le moment, il n'y a pas. On dirait que tout va bien, en fait, un petit peu, quoi.
Bah, il nous fait du Manfred, hein. On commence à avoir l'habitude avec lui, mais bon, on va pas extrapoler plus. On se réserve tout ça pour une autre émission, ne vous inquiétez pas. On reste avec vous, même pendant cette intersaison, chers auditeurs. J'en profite pour remercier Bastien et Marion de m'avoir accompagné pour cette belle émission. Merci à vous deux et merci encore à vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à nous écouter et à nous lire, que ce soit sur Twitter ou sur notre site internet. Ça fait chaud au cœur. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. C'était Martin. Ciao. Bye bye.